R22, tout le monde.
Santé mentale, état du monde.
Les dimanches, surtout. Depuis que mon lit est installé dans le jardin zoologique, je ne peux plus me plaindre. Depuis que mon lit, plus exactement, est derrière les barreaux et moi avec, au cœur du jardin zoologique, je n'ai plus besoin ni de papier, ni de stylo, ni de chambre à moi, ni de chevet, ni même de table de nuit. Chaque jour, l'un me prend en photo, l'autre étudie la fiche descriptive qui a été accrochée au grillage, plusieurs me roucoulent parfois gentiment au nez. On lit sans remarque déplaisante, de l'étonnement à peine, on prend pour argent comptant ce qui est écrit. Tous s'ébahissent sur ma hauteur au garrot, sur les dimensions de ma croupe, le satiné de ma peau, la saillie de mes ilions, sur la modicité de mes seins, mes jambes elliptiques, la largeur de mes pieds, ma pilosité irrégulière, etc. Les gens s'efforcent aussi de pousser des petits cris, de râler, de piailler. Ils s'imaginent m'imiter. Ils prennent contact. Je ne réponds pas pour ne pas les gêner, pour qu'il ne fuit pas, confus, en marmonnant « Oh pardon madame, nous n'avions pas compris, on ne nous avait pas prévenu que vous étiez une... Vous en êtes, et en cage, nous ne pouvions pas savoir. » Non, je ne réponds rien. Je ne veux pas les voir rougir ou les entendre balbutier. J'en serais sincèrement désolée. Peut-être se scandaliseraient-ils, certains. Enfermer une comme vous et moi, c'est inhumain. Et savez-vous, ils seraient capables de dresser des pétitions, de former des comités de défense, de suivre des bannières et de me faire délivrer furieusement. Et l'on arracherait des barreaux mon joug que j'ai suspendu au jour de mon enfermement pour décorer mon espace. Et fi de ma tranquillité. Aussi je me tais précautionneusement. Je souris sans montrer mes dents, gentiment, sans un son, dans la lumière orange des week-ends. Je suis, je crois, une grande attraction depuis qu'on m'a installée ici, avec mon lit. Numéro 2 après les grands fauves. On a reproduit une photo de moi sur les tickets, entre celle du puma et des rhinocéros. Beaucoup de promeneurs s'empressent à mon enclos. Ils ne jettent même pas un œil aux antilopes au cou gracile. Ils foncent droit jusqu'à moi. Les dimanches, surtout. Les enfants passent parfois leurs bras et leurs menottes à travers les barreaux. Ils les secouent. Sans doute voudraient-ils que j'y vienne poser mon museau, ma joue, ma tête. J'évite. Je crains que cela n'excite ma nostalgie et que les larmes ne me montent aux yeux. Parler, passe encore, à la limite. Les perroquets peuvent parler, mais pleurer. Pleurer me dévoilerait. Un samedi, pas un dimanche, un samedi, juste avant l'heure de la fermeture, un couple est demeuré longtemps tout près de moi. Ils regardaient distraitement dans ma direction en lapant chacun une glace. Ils avaient l'air indifférents de ceux à qui l'on a trop répété « Mais c'est incontournable, Vous ne pouvez pas la manquer s'il y a quelque chose à ne pas rater et qui se plante, déçu, l'incroyable réalité ne résistant pas à l'ordinaire. Ces deux-là ont fini leur glace et sont restés là à me fixer, l'œil vide, mâchouillant leur cornet beige. Ça a duré. Ils ne disaient rien. Ils ne se disaient rien. L'ennui les gagnait, mais aucun d'eux n'osait rompre la pause et avouer que « Ouais, c'est pas mal, mais ça vaut pas tout le plat qu'on en fait. » Ils étaient moroses, chacun dans son coin, mangeotant les dernières miettes de son cône en soupirant. Puis ils se sont rapprochés l'un de l'autre, d'abord la main, puis les bouches, pour s'occuper. Ils se sont embrassés là, juste devant. J'ai quitté mon lit et je suis venue me placer à la limite de ma cage, debout, tout contre eux. J'étais un petit peu plus petite qu'eux et beaucoup plus nue, telle que vous me connaissez. L'homme était grand, arrondi par les ans, mais se dégageait de lui une chaleur enjôleuse. Et la femme, en manteau rouge, qui se donnait un air juvénile, avait le nez retroussé et des cheveux assez longs pour laisser croire au paradis. Ils s'embrassaient sans reprendre souffle et j'entendais de légers et désagréables chuintements de succion. Ça a duré. Je ne sais qui de la femme ou de l'homme a en premier perçu ma présence, mais ils se sont séparés, toujours aussi moroses, puis détournés, sans m'adresser un regard, vers le carton plastifié où figure mon nom, mon mode d'alimentation, ma vitesse de course, ma zone géographique d'origine et mes caractéristiques de prédation et de reproduction. Ils ont lu sans un commentaire. Ils s'absorbaient dans cette lecture, soupirant. La femme s'est essuyé la bouche avec un mouchoir jetable. L'homme s'est mis à tapoter impatiemment le revers de sa poche dans un morse parfaitement lisible. Mais comme pour ma part, je ne sais pas lire le morse, je n'ai pas su s'il s'adressait à moi, à elle, ou si c'était un SOS adressé à l'univers. Ponctuel, le gardien a sifflé. D'un coup, ils se sont mis à courir vers la sortie. Elle d'abord, et lui plus lent, à sa suite. Sans un regard pour moi. Ils se tenaient la main, je crois, au moment où ils ont disparu derrière l'étang des flamants roses, Phénicoptérie rosée. Je suis retournée me coucher sur mon lit à deux places. Il ne s'est pas mis à pleuvoir. Des caresses, parfois, lorsque le jour grimpe au ciel du lit, ceux qui m'apportent la nourriture, les soins, ceux qui viennent nettoyer la cage, ils m'en donnent. Ils me flattent de leurs grandes paumes parfois velues au revers, et j'aime ça. Des baisers, jamais, ni de mots sucrés, ni d'étreintes. Lorsque la nuit effleure les draps, je frissonne un peu, mais sinon je ne peux pas me plaindre. Depuis que mon lit est installé dans le jardin zoologique et que mon corps a perdu l'esprit, je ne manque de rien.
Merci. Ah, super. Bonsoir. Bonsoir. Merci Anouche pour cette lecture qui sonne l'ouverture de ce moment qu'on va partager ensemble. Alors la question, en tout cas à l'ère 22, c'était de savoir quel monde et quelle situation se jouait derrière nos états psychiques, derrière nos mal-êtres. Et l'idée, ça a été d'imaginer une série de rencontres radiophoniques et de plateaux, en tout cas, et aussi d'ateliers pour comprendre le développement de la santé psychique et de la santé mentale à la lumière des troubles que traverse notre monde. Et c'est comme ça, en fait, que tout simplement, j'ai pu discuter avec Nathalie, qui, elle, avec Animal Debout, tu travailles sur la question de l'animalité, mais t'en diras plus.
Oui, tout à fait. Et puis, l'expression « animal debout », c'est déjà une question, celle de notre animalité, assumée ou pas. Et déjà, je pense, ça questionne la santé des corps et de l'esprit, quoi.
Et du coup, on est aussi dans le cadre d'un festival bien particulier. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors oui, le festival Zoon, qu'on a co-construit avec le Marché Noir, qui se présentera, puisqu'il arrive près de moi. L'idée, c'était de se faire croiser les arts autour de la figure de l'animal et du bestiaire, avec un événement qui dure une dizaine de jours, ponctué de rencontres, de discussions, de projections, et puis avec une exposition que Julien va vous présenter.
Bonjour à tous, donc moi c'est Julien Lemierre, je fais partie d'une association qui s'appelle Le Marché Noir. On a proposé cette année d'organiser une résidence dans notre atelier. D'habitude on fait un festival qui est passé en biennale autour des arts imprimés. Et cette année on a invité Phileas Dog, qui est une illustratrice qui est basée en Ardèche, qui travaille autour du dessin animalier. Et avec les quatre autres artistes du Marché Noir qui participent à la résidence, la thématique du bestiaire est devenue évidente en fait, et très amusante à pratiquer. On présente tout un tas de gravures, de sérigraphies, il y a aussi du volume. Dans ce cadre-là, on a tout de suite pensé à inviter Animal Debout pour amplifier l'événement et donner un autre caractère, pas seulement à l'univers graphique et artistique, mais aussi littéraire et radiophonique. Donc.
Merci. Et du coup, le festival, il a déjà commencé.
Alors, ça a débuté jeudi avec une soirée d'inauguration, une première lecture qui était présentée sous le format spectacle, une projection, discussion et puis un concert. Et voilà, là, c'est le deuxième temps fort et il y en aura un troisième mercredi de la semaine prochaine.
Et ce que j'ai énormément apprécié, et c'est pour ça que notre rencontre elle a résonné, c'est la place que tu voulais en tout cas donner à l'écoute, cette proposition de documentaire. Est-ce que tu peux, documentaire sonore que vous allez entendre là dans quelques instants et qui servira aussi de base pour discuter après. Est-ce que tu peux nous en parler davantage ?
Oui, tout à fait. Le documentaire qui s'intitule Zoopharmacon et qu'on va vous faire entendre dans quelques minutes, c'est en réalisant un travail de programmation avec l'équipe d'Animal Debout qu'on est tombé sur ce documentaire qui, en gros, j'en dis quelques mots, en fait, est parti de la constatation par deux documentaristes belges du fait qu'on donne de temps en temps des psychotropes aux animaux. Et des chiens qu'on met sous Prozac. Et voilà, elles ont été complètement interloquées par ça. Et elles ont voulu mener l'enquête, vous l'entendrez, avec des philosophes, des vétérinaires, des propriétaires de chiens. Et tout de suite, ça a fait écho au texte d'Anouche, qui questionne d'une certaine manière aussi la santé mentale, puisque cette femme dont tu as fait le récit tout à l'heure, elle s'enferme volontairement dans une cage de zoo. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire autour de cette thématique-là.
Juste avant d'écouter le documentaire, je souhaiterais aussi présenter cette personne qui a plus la tête tournée sur son cahier que vers nous, mais tant mieux, parce que c'est Lucie Roulier, c'est une artiste illustratrice. Peut-être Lucie, tu veux parler de toi-même ? Ouais, dans ce cas-là, je t'invite à venir prendre le micro. En tout cas, juste pour... Non. Lucie préfère dessiner. Et justement, il y avait l'importance du son et des sens, en tout cas, dans ce qu'on imaginait comme rencontre. Dans la programmation santé mentale, état du monde, on a voulu se donner l'occasion d'appréhender la réflexion commune, premièrement, mais aussi donner l'occasion à des artistes qui, peuvent refléter d'une autre manière les réflexions, quoi, de venir en fait interroger ces questions-là avec nous, mais avec une autre forme de sensibilité. Et c'est pour ça qu'on a pensé à Lucie Roulier, pour ça. Et à l'issue de l'émission, en tout cas, elle va nous présenter un petit peu comment elle, est-ce qu'elle appréhende ces questions d'animalité et de santé mentale.
Est-ce qu'on lance le documentaire ?
Oui, une seule précision pour ceux qui nous écoutent. Vous trouverez le lien du documentaire, si vous l'écoutez chez vous, dans le panneau info, donc déroulé, il y a le lien. Et nous, on va muter, c'est-à-dire on va couper le son pour que vous ayez en tout cas une écoute agréable chez vous. Et après, on reviendra. Le documentaire dure 50 minutes. Donc, je vous conseille de quand même bien vous installer. À tout de suite. Ah super, on est de retour. On est aussi de retour sur les ondes. Donc, pour ceux qui auraient écouté ce documentaire, vous êtes chez vous, donc vous n'aurez pas vraiment l'occasion de nous dire ce que vous en avez pensé. Sinon, écrivez-nous un mail. Je le lirai avec attention. Mais je vais profiter du fait qu'on soit présent physiquement aussi pour un petit peu vous inviter à donner vos retours. Qu'est-ce que ça vous a évoqué par rapport au lien santé mentale animalité, mais surtout aussi finalement au lien que nous humains on entretient peut-être avec les animaux à travers la question de la santé mentale. Est-ce que je peux faire circuler un micro? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait un petit peu partager? Je peux demander Sandrine. Est-ce que tu as déjà entendu ce documentaire?
Ah, merci Lauriane. Non, je découvre ce documentaire avec vous. Il y a beaucoup à dire. J'ai pas forcément envie de prendre la parole la première. L'idée, c'est de parler de l'animal thérapeute, en tout cas. Tout à l'heure, là maintenant, je peux en parler un petit peu. Juste pour vous dire qui je suis Sandrine Lefebvre. Je suis une ancienne bibliothécaire et je fais maintenant des ateliers de bibliothérapie. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire que j'encourage toutes les personnes à trouver ou retrouver le goût de la lecture. Et évidemment, quand j'ai vu que l'animal était le sujet principal de ce festival, ça m'a beaucoup intéressée. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'utilise le livre comme un levier thérapeutique pour toutes les personnes et aussi, bien évidemment, pour des thématiques. Et je sais le bien que fait la lecture, les textes qu'on utilise, et les textes, j'ai envie de dire, qui parlent d'animaux, évidemment. J'ai plein d'ouvrages que j'ai amenés ici, mais dès lors que je les utilise en milieu psychiatrique, puisque c'est un des lieux où je travaille, mais pas le seul, j'ai conscience, et je vois foncièrement le bien que la lecture d'un texte qui parle d'un animal fait de bien aux gens, évidemment. Et je n'ai pas vu ce documentaire et ça m'a évidemment fait réagir à plusieurs titres de différentes manières. Je ne suis pas forcément la plus à même d'en parler. En tout cas, je sais à quel point la littérature et les lectures de textes en lien avec les animaux font du bien et à quel point les animaux nous font du bien. Et je ne sais pas si nous, on leur fait du bien.
Ah, c'était ça la question.
Est-ce que quelqu'un veut prendre le micro? Est-ce que...
Bah oui.
Peut-être accueillir aussi Sandrine Willem qui vient de nous rejoindre, que vous pouvez découvrir en visio avec nous. Thierry Bedossa, je sais pas, il va peut-être arriver. Et on a la chance aussi d'avoir avec nous Emmanuel Doumalin qui a bravé le temps pour venir nous rejoindre. C'était pas évident. Peut-être moi je fais la petite transition. Donc là on vient d'entendre un documentaire qui évoque la santé mentale, notamment en mettant en scène des liens qui dysfonctionnent, si on peut dire les choses comme ça, entre humains et animaux. Nos quatre invités du jour ont tous un lien avec le soin. Peut-être qu'on peut vous laisser vous présenter. Donc Sandrine, Sandrine Lefebvre qui est à ma droite, tu viens de le faire. Emmanuel Doumalin, est-ce que vous voulez nous dire qui vous êtes et votre pratique professionnelle?
Bonjour, donc Emmanuel Doumalin, donc je suis le directeur, bonjour à Valérie qui travaille avec les livres mais qui travaille aussi avec les animaux pour la formation. Elle est venue suivre une formation chez nous à Humanima Formation. Donc je suis le directeur d'Humanima et Humanima Formation, deux structures. Une qui fait de la médiation par l'animal et de la recherche de protocoles thérapeutiques assistés par la présence et la collaboration avec l'animal, et un organisme de formation qui forme à nos protocoles d'intervention auprès de différents publics et notamment avec les personnes ayant des besoins spécifiques, notamment avec des problématiques de difficultés psychiques en médiation par l'animal. Donc on forme aussi à nos protocoles. Voilà.
Peut-être vous, Sandrine Willem, est-ce que vous voulez nous dire qui vous êtes ?
Alors aujourd'hui, je suis psychologue et écrivain. Et par le passé, j'ai fait la philo et j'ai fait un doctorat de philo et j'ai travaillé dans le théâtre et le cinéma. Alors, par rapport au sujet, ce que je voudrais dire, c'est que moi, en fait, je suis devenue psychologue avec le désir de travailler avec l'aide d'animaux et que, en fait, ça ne s'est jamais réalisé. Et c'est devenu une immense recherche parce que je ne pouvais imaginer de le faire que dans des conditions optimales, en créant un lieu où les gens auraient vécu avec des animaux. Et puis bon, pour plein de raisons, ça ne s'est jamais réalisé. Et du coup, je suis allée voir beaucoup ce que les gens faisaient autour de ça. Et donc, c'est devenu un terrain d'exploration. Et puis bon, finalement, il y a un livre qui est sorti de ça. Et la recherche, elle continue, parce que je continue à avoir envie de travailler avec des animaux. Mais voilà, enfin, ça me pose énormément de questions qui restent irrésolues. Voilà.
Alors, je crois que Monsieur Bedossa est pas tout à fait connecté. On lui donnera la parole.
Si vous êtes là. Vous m'entendez.
Ok, on vous entend. On vous entend. Donc, est-ce que vous voudriez bien nous dire qui vous êtes?
Je suis vétérinaire et ça fait à peu près une vingtaine d'années que, à chaque fois qu'on me sollicite pour entre guillemets des actions associant les animaux ou des animaux. L'objectif, c'est que les animaux aident les humains. Eh bien, je donne toujours, j'essaie de, dans la mesure du possible, d'apporter mon aide. Et donc, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je fais ça.
D'accord. Alors, moi, j'enchaîne direct par une première question. J'avais envie de vous questionner. Donc, peut-être que Emmanuel Doumalin, vous pourrez vous saisir de cette question peut-être plus facilement. On parle, moi j'ai vu plusieurs appellations de cette pratique qui met en scène l'animal pour dans un protocole de soins thérapeutiques. J'ai rencontré l'expression zoothérapie, thérapie assistée par l'animal, médiation animale. Je crois que vous parlez de médiation par l'animal. Est-ce que vous pourriez nous dire, et puis Sandrine Willem, je pense que vous pouvez aussi vous exprimer sur la question. Qu'est-ce que c'est finalement que la médiation animale et quel est son fondement en fait, sur quoi elle se base et pourquoi on fait intervenir les animaux dans des processus thérapeutiques?
Alors c'est vrai qu'au global, la notion globale en fait c'est d'intervenir en interaction avec un animal. La médiation animale c'est tout ce qui est interaction positive avec des animaux qui apporte à l'humain. Mais qui a toujours, nous on a toujours cette exigence-là, qui ait des effets aussi par rapport à l'animal aussi dans cette rencontre qui va être partagée. Là on est sur de l'ordre du plaisant, du ludique. Après il va y avoir une structure qui va être plus thérapeutique. Nous on parle de médiation par l'animal parce que du coup la thérapie assistée par l'animal actuellement n'a pas été définie dans ces protocoles. Il y a aussi des sujets d'études. Nous, par exemple, on a une thèse sur notre travail, notamment auprès des personnes âgées. On a des sujets de recherche. Et donc, on parle de médiation par l'animal parce que la thérapie assistée par l'animal est en train de se construire dans le cadre des INN, les interventions non médicamenteuses. Et je collabore d'ailleurs avec l'INPES, qui est une société savante qui participe avec des représentants de l'INSERM sur la structure des interventions non médicamenteuses où on va retrouver l'art-thérapie, il y a la marche nordique, enfin, il y a plein d'éléments et notamment la thérapie assistée par l'animal, mais qu'il faut structurer selon des protocoles précis, organisés avec des gens formés de manière qualitative. Donc effectivement, en attendant la notion de thérapie assistée par l'animal qu'elle soit validée de manière officielle, moi je parle de médiation par l'animal, parce que l'animal est notre partenaire, mais les protocoles thérapeutiques sont construits par l'humain dans ce qui va se construire dans une notion triangulaire. La zoothérapie, c'est le terme donc anglo-saxon. Ils reviennent dessus. Pour information, on est partenaire avec le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche du Québec depuis maintenant 10 ans. On partage des formations et même eux reviennent un peu sur ce terme de zoothérapie parce que comme il n'y a pas de protocole thérapeutique clairement défini, pour moi on ne peut pas parler de zoothérapie à partir du moment où il n'y a pas un protocole scientifique qui est élaboré. Donc ils reviennent là-dessus et même au Canada maintenant ils parlent plutôt de médiation animale où on essaie d'échanger avec eux sur ces notions de médiation par animal parce que à l'origine on parlait de médiation animale, on me demandait si j'étais psychologue pour chien, donc c'est pas le cas. Et du coup effectivement cette notion de aller à la rencontre d'une autre personne par l'animal partenaire, c'est un élément essentiel. Alors, quand on revient sur la notion de bien-être de l'animal, pour nous, il est essentiel. On a des modules de formation, notamment aussi sur la collaboration avec l'animal partenaire. Il est essentiel dans ce qu'on va construire. C'est là que l'animal est notre partenaire. Et tout ce qui est mis en place dans des notions de prendre soin. prendre soin pour l'animal, ce qui permet de prendre soin pour soi-même. Et on va travailler sur des protocoles, et notamment sur des accompagnements santé mentale. On travaille beaucoup, par exemple, avec l'hôpital Guillaume Régnier, l'hôpital psychiatrique régional de Guillaume Régnier. On accueille beaucoup de groupes en médiation par l'animal. Et effectivement, tout est construit, alors même avec d'autres publics, hein, milieu carcéral, etc., où du coup, tout est construit sur des notions d'attention partagée avec l'animal. Pour que l'animal se sente bien dans ses mises en situation, il faut aussi avoir la compétence d'identifier un profil de caractère adapté, c'est-à-dire un animal qui est plutôt pot de colle, qui est plutôt attentionné à l'homme, qui recherche le câlin. Parce que, comme pour les humains, les animaux ont le droit d'être indépendants, ils ont le droit de vouloir vivre leur vie tranquillement, etc. Donc effectivement, c'est toute cette compétence à identifier le profil de caractère adapté à ce qu'on va créer, qui va créer plutôt une plus-value pour l'animal, qui nous accompagne dans nos interventions, qui partage notre vie avec nous au quotidien et toute la journée, et qui en plus reçoit des effets bénéfiques. Et on travaille aussi avec les chevaux, et de la même manière, on aura cette même vigilance sur le profil et ce qu'on va créer dans les relations qu'on va mettre en place. Voilà, être adapté en fait à des situations. Donc on a mis des années à tout baser sur du prendre soin auprès de l'animal pour travailler sur des besoins spécifiques de la personne.
Et Sandrine Willem, vous avez écrit un livre qui s'appelle « L'animal à l'âme » et qui fait l'histoire en fait de ces pratiques-là. Est-ce que vous voudriez nous en parler un petit peu ?
Aujourd'hui, j'en dirais que ce terme de médiation avec... L'animal, il doit se débarrasser d'abord de la notion de moyen. Enfin, parce que ce à quoi je crois qu'il faut être très vigilant, c'est que l'animal ne soit pas instrumentalisé dans l'histoire. Et qu'on peut prendre médiation en termes vraiment de médiateur, d'intermédiaire par rapport à la nature dont l'humain s'est coupé. Et je crois en y perdant une certaine vitalité. Je crois que l'animal peut nous reconnecter à une espèce de vitalité naturelle. Il y a une patiente d'un hôpital psychiatrique qui, à propos d'un chien qui était arrivé dans la clinique, avait dit on a tellement de mal à vivre, on a besoin d'une vie qui nous pousse vers la vie. Je trouvais que c'était un beau résumé de ce qu'un animal pouvait apporter. Alors, donc en ça, je crois qu'un animal, il peut être thérapeutique pour n'importe quel humain. A fortiori, il peut l'être pour des personnes qui en arrivent à une immense méfiance par rapport au monde humain et qui peuvent plus entrer en contact parce qu'elles ont été échaudées, parce qu'elles ont trop souffert, parce que voilà, elles ont été abandonnées ou qu'elles sont murées dans une souffrance, et que on peut constater que parfois l'animal trouve accès là où les humains ne peuvent plus entrer en communication. Et donc là, il y a vraiment quelque chose d'autre qui peut se passer. Je crois que l'animal peut combler des besoins affectifs incomblables par des humains, qu'il a d'autres ressources que nous. Et j'aurais envie là de rappeler quelque chose qui peut paraître une évidence, mais c'est que la rencontre avec un animal, elle se pose complètement autrement qu'avec un humain. Que l'animal, il peut souvent aller plus près qu'un humain, parce qu'on n'a pas les mêmes réticences, on n'a pas les mêmes défenses qu'avec un humain, et en même temps, il vit complètement dans son monde. Donc, fatalement, la rencontre se pose autrement, et en plus, l'animal ne remet en question des tas de dualismes dans lesquels est pris l'humain, c'est-à-dire entre le corps et l'esprit, la pensée et l'affect. Et je crois que l'animal peut nous reconnecter à une espèce d'unité entre ces éléments différents. Alors, bon, par rapport à ce que vous disiez, j'ajouterais que oui, on peut tendre à des protocoles, dans la mesure où on peut penser des façons de mettre en place des rencontres, mais que de toute façon, ça se passe d'individu à individu, qu'une vraie rencontre thérapeutique, je crois que c'est tel humain avec tel animal, et que il y a beaucoup de choses qui sont pas généralisables là-dedans. Et que, comme avec un psy, enfin, je pense que le désir de scientificité, il a une limite là, c'est que ça n'est pas reproductible. Il y a quand même quelque chose du miracle de la rencontre, ça marche ou pas. Et on peut pas, je crois, généraliser.
Merci beaucoup Sandrine, je suis ravie de vous rencontrer ce soir. J'aimerais
Lire un texte en écho à ce que vous venez de dire, ça fait vraiment résonance. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage de Cédric Sapin de Four, et je m'adresse à vous Sandrine et à tout le monde ici présent, si vous me permettez de le lire, bien évidemment. C'est extrait de son odeur après la pluie. À cet instant de la mienne, je sais qu'une autre vie va me rejoindre, qu'elle va cuirasser et exposer mes lendemains. Ce canidé puant et stupide qui n'apporte rien au monde, que d'autres négligent ou rouent de coups, n'attendra rien que nous soyons à côté à entrelacer nos fortunes et tenir la vie en respect. L'amour dont il s'agit sera sans condition. Il s'en fichera de beaucoup, de mon rang, de mes richesses, de mes vertus et de mes manques. Il m'aidera à défricher les importances et nous réduirons ensemble cette existence au luxe de l'essentiel. Il sera là à ensauvager mes jours et ni lui, ni moi ne serons plus jamais seuls. Cela peut suffire à être heureux. Qu'il advienne le meilleur ou le pire, les larmes ou les rires, les honneurs ou les blâmes, il voyagera dans sa constance et les ondulations de mon existence sans jamais céder à notre histoire un pouce de sa loyauté, sans me juger, prête à donner la sienne si nécessaire. Il m'augmentera. Ce lien, ce n'est pas tout à fait banal. Je sais que cette vie commune aura ses joies et ses peines, mais c'est ainsi. Les chemins menant au bonheur sont pavés de bien des affres. Les trajets directs n'existent pas, ou alors c'est vers autre part que le bonheur. C'est juste le moment où cet homme va chercher cet animal avec qui il va vivre la plus belle histoire d'amour. Un lien indéfectible de la naissance à la mort de cet animal. Alors je trouve que ce livre est absolument passionnant sur ce lien qui existe entre nous les humains et les animaux, j'ai envie de dire, les vivants, tout simplement. Merci.
Moi, j'aurais une question un peu plus technique. C'est à quel moment, en fait, pour un patient, on se dit que la médiation par l'animal peut être envisagée? Y a-t-il des profils, en fait, qui sont plus aptes à, en tout cas, avoir recours à ce genre de protocole?
En fait, notre manière de travailler, et nous, en fait, dans nos pratiques professionnelles, on est tous professionnels de la relation d'aide, hein, santé sociale paramédicale, donc on a des compétences à aller à la rencontre des publics avec des fragilités et à prendre en compte ces spécificités. Et donc, du coup, on va toujours partir, en fait, de cet élan à l'interaction naturelle qui va se faire avec l'animal, cette envie de faire avec et pour l'animal. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure avec, du coup, cette facilité à aller dans cette proximité physico-émotionnelle. Moi, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire, on peut s'autoriser à être sur le contact physique avec un animal et on peut aussi, de manière psychique, s'autoriser à l'élan affectif. On va aller au-delà des codes sociaux qu'on a, de la limite, de la distance professionnelle. Et donc, on va, nous, travailler sur cette envie d'aller vers l'animal et d'être dans la démarche volontaire. Donc c'est la compétence à identifier des spécificités des publics, de leurs besoins, et de mettre en relation des situations effectivement qui vont être construites par rapport, alors si on parle techniquement, chaque personne en accompagnement a des projets qui sont individualisés, avec des objectifs qui lui sont personnels, et un niveau collaboratif qui fait qu'on sera étayant si besoin, mais on va créer ces situations-là pour transposer tout ce qui peut être travaillé avec la personne dans son contexte de vie. On évoquait tout à l'heure effectivement les personnes avec des fragilités psychiques. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du structurel par rapport à cette fragilité-là. Et je rejoins ce qui était dit à un moment, c'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément de changer la personne, mais c'est qu'elle puisse faire avec et lui permettre d'étayer en fonction de sa manière d'être différente et d'étayer dans son environnement. Pour ça, il faut qu'elle puisse s'autoriser à expérimenter. Expérimenter avec l'humain, il y a cette notion de jugement, d'évaluation, et surtout dans une relation duelle. Et nous, les situations triangulaires, en fait, on va pas être sur l'explication, on va être sur le faire ensemble, sur les situations partagées, ce que moi j'appelle la mise en mouvement, la mise en mouvement dans l'agir physique, la mise en mouvement dans la la construction dans l'agir auprès de l'animal et l'élaboration et l'organisation en fait de l'agir auprès de l'animal et le fait de s'autoriser psycho-affectivement à pouvoir agir auprès de l'animal. Et dans cette notion-là, va y avoir effectivement cet échange naturel, l'animal non-jugeant, qui va aller naturellement vers la personne, qui va être dans ce contact, effectivement, cette grande proximité, et nous autoriser à être un peu plus proches. Alors là, on va arriver sur la notion qui peut être un peu complexe, c'est-à-dire où est la limite professionnelle dans cette rencontre. Et effectivement, pour moi, mais je pense que vous serez plus précise que moi, mais du coup, on peut avoir cette difficulté dans cette proximité physico-émotionnelle à ce qu'on appelle la gestion du transfert et du contre-transfert. Mais là, comme elle est triangulée vers un tiers affectif, et même au niveau de l'approche physique, là, non, il n'y a pas d'enjeu dans ces notions de transfert et contre-transfert, parce que du coup, l'attention est portée sur l'animal. Et donc, dans cet agir auprès de l'animal, et dans cette envie attentionnée et bienveillante envers l'animal, et le retour de l'animal de ce qu'il en fait, effectivement, on peut être dans cette interaction très très proche et s'autoriser à sortir de cette collaboration partagée au travers de l'animal et de se ressortir de cette situation-là, parce qu'il n'y a pas d'enjeu relationnel direct.
Il y a des moments ou des certaines situations où justement il a fallu intervenir et du coup se mettre entre l'animal et une personne qui du coup d'une certaine manière le met en danger ou
Alors l'idée en fait c'est d'anticiper au maximum la situation et même par des personnes très en difficulté, très fragilisées, de leur expliquer cette notion d'attention et en fait toute cette construction de prendre soin est basé sur, effectivement, tout a été construit sur des caresses, hein, l'attention, concentration, la gestion des émotions, la praxie, l'amplitude, la gestion tonique, tout a été construit aussi sur du prendre soin. On explique à la personne, on ne lui ment pas. Et donc, du coup, elle élabore, en fait, tout cet agir auprès de l'animal. Donc, j'interviens dans des contextes assez particuliers, hein, milieu carcéral, service psychiatrique en milieu carcéral, quartier d'isolement, on intervient auprès des personnes fragiles psychiques. On peut avoir des personnes qui, par contre, à certains moments, par exemple avec des personnes âgées désorientées, ont une difficulté à appréhender leur environnement et à avoir des prises fortes. Donc du coup, effectivement, on anticipe toujours, on prépare en amont, de toute façon, les situations, et on explique à la personne, et on peut être guidant, c'est-à-dire faire avec elle pour guider les attentions auprès de l'animal, et avoir un animal qui soit adapté aussi dans son positionnement dans la rencontre par rapport envers la personne, puisqu'effectivement, il y a des éléments proxémiques qui vont amener effectivement à cette montée en angoisse d'une personne qui peut avoir une réaction. Donc effectivement, il faut qu'on accepte d'arriver dans l'espace intime de la personne au travers de l'animal, avec la validation de la personne et son accord pour qu'on rencontre dans cette sphère de protection qui est la sphère intime.
Ah, il y a une question dans le public.
Bah, j'ai pas entendu toute la question.
Là, moi, je parle de médiation par animal. On travaille
Est-ce
aussi.
Qu'on parle avec des... que de chiens, c'était ça.
On peut parler aussi de mon travail avec les chevaux, c'est-à-dire l'animal qui fait sens dans cette entrée en relation, dans la rencontre. C'est toute la valeur qu'on va mettre dans l'attention qu'on va porter auprès de l'animal. Donc, nous, on travaille aussi avec des petits animaux à certains moments. Effectivement, on va travailler avec des chevaux. On fait de l'équithérapie. Donc, c'est toute cette rencontre avec la spontanéité, le non-jugement de l'animal qui est important. Et c'est pour ça que les personnes, notamment les personnes fragilisées, s'autorisent en fait à agir. Parce qu'il ne va pas y avoir de jugement. On est attentionné à l'animal, on va lui faire du bien par rapport à notre collaboration. Et donc, effectivement, c'est ce qui va permettre de créer des situations de rencontre avec l'animal et effectivement d'avoir vraiment des instants privilégiés. Oui, tout à fait.
Alors, moi, je voudrais adresser une question à Thierry Bedosa. Dans votre pratique de vétérinaire, est-ce que vous considérez le bien-être ou le mal-être psychique des animaux que vous devez soigner? Est-ce que c'est une question pour vous?
Bien sûr, mais en fait, c'est deux choses, deux sujets qui sont complètement séparés. C'est-à-dire que les animaux qui sont utilisés, entre guillemets, en médiation animale, sont en général, évidemment, des animaux qui ne sont pas eux-mêmes en situation de mal-être. Donc, bien sûr, un vétérinaire et surtout un comportementaliste, ce qui est mon cas, nous, on est consultés par des propriétaires parce que ils décèlent... que leur animal, entre guillemets, leur pose des problèmes. Et donc, c'est dans ce cadre qu'ils nous consultent. Mais dans les actions associant les animaux, là, un thérapeute, quel qu'il soit, hein, beaucoup de personnes ont parlé, mais un thérapeute, il utilise un ou plusieurs animaux pour aider un patient. Et donc, si vous voulez, je peux vous donner trois exemples très très pratiques d'actions associant les animaux auxquels je suis en ce moment associé. La première, elle est conduite par la directrice de l'Institut de victimologie de Paris, qui est une psychiatre et qui s'appelle Delphine Morali. Et depuis plusieurs années, elle m'amène dans le refuge que je dirige, qui est en Normandie, à 100 km de Paris. Elle m'amène des patients en état de stress post-traumatique très avancé. Les premiers patients qu'elle m'a amenés étaient des victimes du Bataclan, des attentats du Bataclan en 2015. Et donc ces personnes qui prennent en charge une centaine de chiens dans le refuge Ava, eh bien donc sous la supervision de la psychiatre Delphine Morali et de tous ces personnels encadrants, donc ces personnes sont en général chaque année environ une dizaine, ces patients sont une dizaine, et Delphine Morali elle-même ne s'attendait pas à ce que ces patients fassent autant de progrès. La première année où elle a amené ses patients, qui étaient tous des victimes du Bataclan, elle a constaté une amélioration significative chez chacun de ses patients, alors que ça faisait la pauvre 6 ans qu'elle n'arrivait pas à l'esprit tellement avancée. Et donc, elle a été la première surprise de. C'est elle qui a eu cette idée, mais elle a été la première surprise des résultats qu'ont eu les interactions entre ses patients et les chiens du refuge. Et son explication, son interprétation est que ont vraiment mis en relation avec tous ces chiens de refuge qui sont aussi des gueules cassées et ils se sont probablement projetés sur eux et elle a été vraiment la première surprise de leur amélioration. Et puis j'accueille aussi dans cette ferme refuge des jeunes en situation de et donc c'est des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse du 93, qui est le département le plus pauvre de France, la Seine-Saint-Denis. Et pareil, donc là encore une fois, hein, ce sont des thérapeutes qui m'ont fait cette demande. Et là aussi, c'est la troisième saison. Ils sont tous surpris des effets si positifs que les interactions avec ces chiens de refuge, dont certains sont des chiens qui sont là parce qu'ils sont jugés trop dangereux pour vivre ailleurs que dans un refuge, sinon ils seraient mis à mort avec les lois actuelles sur les chiens dangereux. Eh bien, donc ces jeunes s'identifient à ces, entre guillemets, chiens délinquants, chiens dangereux, et ça leur permet de se responsabiliser et de mieux se comporter en société. Les thérapeutes qui font ces demandes sont les premiers surpris de l'intensité et de la systématicité des résultats. Vous m'entendez?
Oui, on vous entend. Il y a eu une toute petite coupure, mais je crois qu'on a saisi quand même le principal. Vous parliez tout à l'heure des personnes qui viennent vous voir, des propriétaires d'animaux, parce qu'à un moment donné, leur animal, soit est malade, soit leur pose des problèmes. Comment vous prenez en compte, vous, les humains, des animaux? On entendait tout à l'heure dans le documentaire un vétérinaire qui avait choisi ce métier pour pas parler à des humains, puis finalement qui se rend compte que l'essentiel de son métier, c'est ça. Comment vous prenez en compte les humains qui viennent vous voir et est-ce que c'est une relation de partenaire?
Alors, j'ai bientôt 60 ans et donc j'ai aujourd'hui une maturité et un niveau de connaissance dans beaucoup de disciplines qui n'était pas du tout ce qui n'était pas du tout le cas quand j'avais 30 ans. Donc, je travaille avec des psychologues, je travaille avec des psychiatres, je travaille avec des anthropologues, je travaille avec des sociologues et je travaille avec des ergothérapeutes, des psychothérapeutes. Et donc, évidemment, si vous voulez, et puis je fais aussi de la recherche en éthologie, et notamment dans le domaine de la cognition. Mes travaux de recherche portent sur la synchronie comportementale entre un chien et son propriétaire, sur la résonance motrice qui peut survenir entre un chien et son propriétaire, ou entre un chien et un humain non connu du chien. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, évidemment, je tiens compte non seulement des profils de entre guillemets, de personnalité, des états mentaux des propriétaires, et aussi, évidemment, de ceux des patients, chiens ou chats, qui me sont présentés. Et il est bien souvent difficile d'aborder tout ça avec un propriétaire qui vient nous consulter, nous les vétérinaires, parce qu'il décèle un problème de comportement chez son animal. Et donc, ça fait à peu près maintenant une dizaine d'années que je travaille lors de mes consultations avec une psychologue clinicienne, ce qui nous permet, dans le binôme qu'on constitue, d'aborder autant les problématiques qui sont liées au comportement gênant de l'animal, mais aussi d'aborder avec un propriétaire qui ne s'y attend pas forcément, d'aborder l'influence qu'il peut avoir sur les comportements gênants de son animal. Bien souvent, les propriétaires qui nous consultent, en fait, ils ne connaissent pas les espèces qu'ils possèdent et ils ne comprennent pas les états mentaux des animaux qu'ils possèdent. Et donc, il y a non seulement un travail de fond pour leur expliquer ça, mais on se rend compte aussi souvent que dans leur champ cognitif à eux, dans leur réalité cognitive à eux, en fait, ils sont pas en mesure d'appréhender l'altérité de cet animal qu'ils ont accueilli chez eux.
Merci. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une remarque dans ce cas-là. À l'écoute du documentaire sonore, c'était vraiment la question justement qui me taraudait. C'est qui est-ce qu'on soigne? En tout cas, quand on emmène son chien ou son animal de compagnie chez le vétérinaire, est-ce qu'il n'y a pas une partie, en tout cas, qui est clairement en miroir humain, animal, quoi, propriétaire? Et vous disiez que, du coup, qu'il y avait aussi un accompagnement, cette fois-ci, un peu plus de la médiation homme, propriétaire, animal, qui se faisait. Mais est-ce que, réellement, vous vous retrouvez quelquefois à vous interroger sur les états psychiques des propriétaires?
Alors, c'est pas forcément dans mes fonctions, mais effectivement, le passage d'information dans l'autre sens, dans nos pratiques, le passage d'information en effet miroir par rapport à l'animal est souvent significatif de ce que je peux pas dire pour moi, je le dis à propos de l'animal. Donc je pense qu'on va retrouver, M. Bedossa doit retrouver ce genre d'information parfois avec des personnes qui cherchent à communiquer aussi par rapport à un tiers avec lequel il est très souvent fusionnel. Donc je pense qu'on va retrouver ces éléments-là. On peut le retrouver avec des publics assez spécifiques. Effectivement, je parlais du milieu carcéral où là on est en intervention individualisée en cellule, ou avec la continuité du projet par rapport à ce que disait Monsieur Bedossa aussi, puisque du coup on avait mis en place à une époque, on souhaite le remettre en place, un projet où les détenus allaient à la SPA, les détenus accompagnés à la SPA de Rennes, pour s'engager en fait sur le prendre soin auprès des animaux fragilisés et un peu incarcérés aussi en fait, ils sont en cage, et du coup par rapport à un travail en effet miroir. Donc c'est là que du coup on va avoir des effets où ils vont pouvoir mettre des mots aussi sur cette notion de reconstruction partagée au travers d'animaux qui sont aussi en difficulté, où là ils mettent de la valeur et du sens aussi par rapport à quelque chose où ils peuvent partager certaines choses. Pour information, je reviens aussi sur une expérimentation, ça va même plus loin que ça maintenant, qui est très bien organisée aussi avec des anciens militaires traumatisés de guerre, qui adoptent des animaux effectivement ayant subi aussi des traumatismes pour travailler sur une reconstruction en miroir, sur un prendre soin réciproque avec des personnes, enfin des êtres vivants qui ont des bosses, hein, des cabosses. Et du coup, il y a tout un accompagnement qui est fait aussi dans ces accompagnements en duo et qui fonctionne aussi très très bien effectivement. Dans nos pratiques, c'est nous qui allons à la rencontre des personnes avec nos animaux qu'on nomme partenaires, mais du coup, on peut avoir des personnes qui viennent nous voir avec leur animal pour nous le présenter, mais c'est pas dans nos fonctions, mais très souvent, effectivement, on peut aussi avoir des animaux qui somatisent aussi par rapport à une fragilité de l'animal et identifier chez la fragilité de l'animal une fragilité identifiée pour l'homme dans cette somatisation, en fait, de la difficulté du référent humain.
Alors, là, peut-être une question à vous quatre. En fait, Thierry Bedossa, vous avez évoqué les recherches dans lesquelles vous êtes engagé. Emmanuel Doumalin, vous avez parlé des partenariats, notamment avec l'université Rennes 1, je crois, le laboratoire Ethos. Et Sandrine Willem, vous, dans les soins, enfin, je sais pas comment dire ça, mais dans les protocoles thérapeutiques que vous mettez en place, il y a notamment des ateliers d'écriture. et vous-même, vous êtes écrivaine. J'avais envie de vous questionner sur l'importance de la recherche et de la créativité dans vos pratiques, chacun et chacune.
Effectivement, nous on collabore toujours avec sur des sujets de recherche. Hein, on a eu, comme je disais, une thèse sur nos interventions auprès des personnes âgées désorientées. Là, effectivement, la collaboration avec l'université Tous de Rennes, c'était effectivement sur sur la corrélation qu'il pouvait y avoir sur l'attention des enfants avec autisme, sur l'attention qui pouvait être mise en place par rapport au sujet animalier en fait, et pouvoir interagir avec ces personnes-là, enfin ces enfants, au travers de l'attention portée. Donc il y a tout un sujet de recherche avec justement l'adaptation de nos protocoles pour être sur des effets plus positifs encore sur la possibilité d'interagir. Si je reviens sur le bien-être des animaux, on a collaboré aussi avec deux vétérinaires parce qu'on avait un questionnement effectivement sur notre travail, notamment au milieu carcéral, cet environnement-là, donc toute la préparation des animaux. Je pense qu'ils vont bien, mais effectivement, on a carrément eu un protocole de recherche avec l'évaluation du taux de cortisol à certains moments de la journée, etc., avant, après intervention, etc., pour évaluer effectivement physiquement et psychiquement, en fait, puisque du coup, le cortisol, c'est une réaction, s'il y avait effectivement des difficultés, comment remédier, nous adapter, en fait, par rapport à cette gestion-là, la préparation, et puis effectivement, le profil de nos animaux. Donc, je pense que je reviens là-dessus, notre objectif, c'est d'aller à la rencontre des personnes avec fragilité, mais effectivement, ces éléments-là sont hyper importants pour nous. Et d'ailleurs, si on est concret, en fait, dans nos pratiques, plus l'animal est heureux d'aller à la rencontre de ces personnes-là qu'il ne connaît pas forcément, et plus, du coup, on aura un résultat d'interaction qui sera positif. Donc, du coup, c'est des effets induits qui sont positifs.
Pour moi, en fait, le processus thérapeutique et le processus de création, ce sont des choses qui se sont rapprochées. Enfin, je crois que remettre une histoire en sens et écrire un récit, enfin, ce sont des choses finalement très proches. Et je pense qu'avec l'animal, il y a quelque chose de particulier qui peut se passer là. C'est-à-dire que l'animal sollicite particulièrement la créativité. Et justement, je crois que une thérapie avec un animal optimale, c'est un dispositif qui permet à l'animal d'exprimer sa créativité. Et donc, une marge d'improvisation, enfin, donc quelque chose effectivement qui est sécurisé pour le patient, mais qui est quand même qui laisse une grande liberté à l'animal, qui lui permet de d'être dans l'imprévu aussi. Et bon, pour le moment, par exemple, j'explore avec des ânes des choses qui pourraient presque être de l'ordre du psychodrame, où les personnes pourraient aussi projeter tout ce qu'elles imaginent sur les ânes. Et je crois que justement, par cette vitalité qu'ont les animaux, il y a quelque chose qui peut vraiment déployer la créativité des gens. Voilà.
Oui, alors moi, j'aimerais aussi réagir. J'utilise le livre, et notamment quand ça parle d'animaux, et c'est extraordinaire, l'effet miroir, ou simplement le divertissement, ou le plaisir que ça peut apporter au niveau des patients. J'utilise le mot patient puisque je fais des ateliers thérapeutiques avec des infirmiers, avec des psychiatres, là où je travaille, dans le milieu hospitalier. Et c'est fabuleux de voir à quel point, à un moment donné, une personne qui va sembler renfermée, si on lui lit, vous parlez d'âne, si on va lui lire le livre de Robert Louis Stevenson, L'âne dans les Cévennes, à travers ce récit, elle va dire des choses de sa vie. Elle va avoir envie de parler, peut-être de voyage, peut-être d'animaux, peut-être de sa vie. Et c'est assez extraordinaire de voir cette créativité dans ce qu'elle peut être dans l'écriture et dans ce qu'elle peut être dans la lecture au niveau de ce qu'elle propose chez les gens. C'est fabuleux. Voilà ce que j'avais envie de dire à la suite de vos propos.
Bon, que j'aurais à poser, c'est quand la rencontre a lieu entre un animal et une personne, là on essaie de mesurer les effets que ça a sur l'humain, mais est-ce qu'il y a des traces qui se laissent? Vous avez commencé à en parler un petit peu, mais est-ce qu'il y a des effets? Est-ce que vous pouvez parler de ça, de comment la rencontre avec certaines personnes laisse des traces sur les animaux, ou ils ont des réactions particulières dans cette rencontre?
Pour changer, parce qu'il y a un monsieur qui me parlait de comment, si c'était qu'avec les chiens. Non, on travaille. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les chevaux de plus en plus. Et j'ai notamment un cheval de trait, donc ce sont des chevaux à sang froid, qui sont très calmes et qui amènent leur puissance. Et il faut savoir que la jument qu'on a, par exemple, qui s'appelle Vanille, c'est une jument qui s'imagine certainement toute petite, qui est très anxieuse, très angoissée. On a mis 2 ans, en fait, à la faire travailler, tout simplement parce que il fallait qu'elle y trouve son bénéfice pour elle, tout simplement pour pas être traumatisée. Et donc, au fur et à mesure, c'est pour ça qu'on crée des ateliers d'attention partagée. On travaille vraiment effectivement sur notre compétence à avoir des émotions positives et amener les personnes à avoir des émotions positives, parce que ce sont des éponges émotionnelles. Hein. On travaille beaucoup sur maintenant l'image mentale, le captage mental, même en formation, et où cette compétence qu'on peut avoir à communiquer de manière émotionnelle avec des résultats significatifs aussi avec nos chevaux, où ils viennent coller, etc. Et donc du coup, effectivement, on est très très attentionné à construire en amont des situations positives. Après, on voit la réaction du cheval, on voit comment ça se passe, on le partage avec la personne. Donc ça, c'est tous ces éléments de préparation qui fait que du coup, maintenant, par exemple, quand on arrête une séance, les chevaux veulent pas partir parce que ils y ont trouvé un bénéfice, et ça, on doit l'observer. On doit aussi faire très attention. Alors, par exemple, on va parler pour les chiens notamment, des signaux d'apaisement. C'est-à-dire une situation qui fait que du coup, ça crée une situation anxiogène. Tout de suite, on va arrêter et on va remédier pour que du coup, il y ait à nouveau une situation positive pour les animaux. Et puis aussi, on va laisser tous nos animaux grandir tranquillement. Par exemple, on a une chienne actuellement qui s'appelle Triskel, qui a 13 mois, qui n'a pas commencé à travailler. On va attendre pour nous aussi. Alors, elle peut venir. On a un institut, donc elle va venir s'immerger parce que c'est son plaisir. Puis elle est avec nous. Elle va vers les personnes. Mais on va la laisser grandir tranquillement et même aller jusqu'à après l'adolescence pour commencer à la faire travailler. Et après, il faut effectivement être très vigilant. Nos animaux viennent avec nous et repartent avec nous. Ils vivent dans un environnement de vie naturel, en famille. Ils travaillent 3 heures maximum par jour. Tous ces éléments-là font qu'il y a des éléments de pause, il y a une vigilance par rapport à ça, qui fait que du coup, effectivement, on va être très très attentionné à ce qu'ils gardent beaucoup de spontanéité, beaucoup de naturel, hein, ils n'ont pas les compétences des chiens d'autichiens, on ne le cherche pas, et du coup, qu'ils gardent effectivement un équilibre par rapport à ces éléments-là, et qu'on reste le point de repère émotionnellement pour eux.
Merci beaucoup. Je serais aussi curieuse d'avoir votre retour, Sandrine, sur puisque vous parliez un peu de la créativité de l'animal dans la rencontre. Comme vous parliez de la créativité de l'animal dans la rencontre avec les patients, est-ce que vous pouvez témoigner aussi des effets de la rencontre sur l'animal, les effets de la rencontre avec un patient en particulier sur l'animal?
Sur l'animal. Mais là, j'aurais envie de parler de ce que j'ai observé de processus thérapeutiques aussi spontanés, entre guillemets, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai travaillé avec des personnes qui étaient dans des addictions lourdes et dont certaines à la rue, et donc qui adoptaient souvent des chiens, même plusieurs. Et oui, l'effet de miroir, il joue dans les deux sens, c'est-à-dire que il y a aussi une identification de l'animal, en l'occurrence le chien, à la personne, et avec un rôle très maternant que peut prendre l'animal. Enfin, moi, j'ai vu des chiens qui se faisaient spontanément les guides de personnes qui étaient trop bourrées pour rentrer chez elles. Enfin, donc l'animal peut vraiment aller très loin dans cet engagement thérapeutique. Même là où on lui demande pas, c'est là que ça peut devenir fabuleux. Dans un autre cas, j'ai vu dans une clinique psychiatrique un chien qui avait débarqué spontanément et qui restait tant qu'il pouvait et tant qu'il y trouvait son compte. Et quand il en pouvait plus, ben il partait dans la forêt. Enfin là, c'est optimal parce que justement là, l'animal il peut partir quand il en peut plus. C'est lui qui met ses propres limites. Mais L'effet, je crois que c'est que justement l'animal peut vraiment être extrêmement fin dans son écoute et qu'il y a des animaux qui sont plus ou moins doués. C'est en ça que je parlais de singularité. C'est pas universel, mais je crois que il peut vraiment tisser des relations suffisamment fines que pour essayer. Oui, malgré tout, il y a presque quelque chose qui ressemble à une intention de rester vraiment dans la proximité de la personne et d'être là, pleinement là, quand la personne ne va pas bien. Enfin, on a vu dans des unités de soins palliatifs des chats qui circulaient librement, et quand ils sentaient que la personne allait mourir, les chats venaient se coller à elle. Enfin, je crois qu'effectivement, cette sensibilité des animaux, elle peut se développer selon les talents des uns et des autres.
Effectivement, juste pour finir, et c'est là que c'est vraiment essentiel de bien définir, effectivement, avant de mettre en contact avec des personnes dans le cadre de nos rencontres et nos interventions, Alors là, c'est, l'animal venait spontanément et donc du coup, il n'y avait pas besoin d'identifier, mais pour nous, de vraiment avoir l'animal qui, pour qui c'est positif et bienfaisant de pouvoir créer ces situations de rencontre avec des personnes inconnues, parce que c'est aussi ça, même si après on répète nos rencontres. Et effectivement, chaque profil de caractère est différent, et donc il faut vraiment prendre en compte cette envie de l'animal et ses qualités émotionnelles, d'équilibre aussi, parce qu'on peut avoir des animaux qui donnent tout, hein, et qui se perdent. Donc il faut faire très très attention, mais c'est vraiment bien l'identification. On peut pas prendre n'importe quel animal, tout comme n'importe quel humain ne peut pas aller à la rencontre d'autres personnes, des gens qui sont plus indépendants. De la même manière, on a aussi ces profils qui sont plus dans la relation et vraiment l'attention vraiment particulière auprès de l'humain et qui du coup s'y retrouvent dans ce qu'on peut créer après effectivement.
J'aurais envie de rebondir si je peux, s'il y a l'espace, le temps, sur cette idée de positif, parce que je crois que dans des processus thérapeutiques, le négatif est important aussi. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Mais aussi des situations où l'animal, justement, il n'a pas envie. Il n'a pas envie de venir vers nous. Il peut sembler même abandonnant. Il peut faire passer ses besoins avant les nôtres. Et c'est sain qu'il puisse le faire. Et je crois que tout dépend de ce qu'on en fait. Enfin, le thérapeute, quand le patient, il est confronté à ça, qu'est-ce qu'on en fait? La frustration, ça peut être positif de la travailler aussi. Enfin, le négatif, il peut se retourner en positif dans ce sens-là. Comme ce qu'on disait par rapport aux médicaments, l'angoisse, ça peut être un ferment de transformation. La séparation avec un animal, la mort d'un animal, ça peut aussi être un élément de transformation. Et je crois que c'est important de pas idéaliser les animaux aussi, parce que sinon, il y a des gros risques de déception. Il y a une histoire, par exemple, qui m'a beaucoup frappée, c'est Freud, pour le prendre lui, qui avait une relation très forte avec ses chiens. Et quand il a eu un cancer de la mâchoire, il se sentait très mauvais. Et il y a eu un moment où ses chiens se sont éloignés de lui parce que il se sentait trop mauvais. Enfin, ça a été évidemment très dur pour lui. Mais des choses comme ça, même le pire, on peut l'intégrer et en faire quelque chose. Donc, je crois pas qu'on ait à ne viser que du positif, du lisse, du bienveillant. Voilà. Je crois que la complexité, c'est important, et qu'une relation avec un animal, elle peut être aussi complexe, voire plus complexe qu'avec un humain, parce que les animaux, ils parlent pas et il y a encore plus de risques de malentendus.
Dans ce que vous dites, chère madame, c'est vrai, mais il faut distinguer deux situations. En fait, on a beaucoup parlé dans ce débat d'animaux thérapeutes, en tout cas qui interviennent pour aider un patient. Et vous avez aussi beaucoup évoqué, à très très juste titre, en parlant de Freud et de ses chiens, en parlant des SDF punkachiens, vous avez évoqué donc des chiens sont des aidants de leur propriétaire. Et dans ce qu'elle a évoqué, moi, je vois ça pratiquement dans mon quotidien de vétérinaire. Je vois énormément de chiens, de chats, de chevaux aussi parfois, qui sont vraiment de grands aidants pour leur propriétaire. Et pas forcément des propriétaires qui se perçoivent comme étant vulnérables, qui se perçoivent comme étant affectés, malades. Mais je vois en revanche leurs animaux qui veulent les aider. C'est vraiment très très fréquent, beaucoup plus que ce que en général nous les humains raisonnables pouvons imaginer.
Merci, c'était fort. Il y a une question.
Oui, c'est une question pour Sandrine. Et si elle est mal formulée, que c'est pas clair, il faut me faire répéter parce que je réfléchis quand je parle. Mais moi, ma question, c'est par rapport à, enfin, comment dire, quand j'entends tout la lecture de début, et ce qui ça me fait penser, c'est que les animaux maintenant, c'est leur service maintenant qui sert peut-être plus plus comme avant. Ils ne tirent rien, ils transportent rien, ils chassent rien. Ben maintenant, on leur donne un autre service parce qu'ils doivent quand même nous servir à quelque chose, il faut croire. Et donc maintenant, ils nous servent à tisser un lien entre nous. Et là où il n'y a plus de lien entre nous, ben, la nature. Et donc, bien que les exemples que Sandrine a mentionnés de spontanéité, de service, c'est quelque chose qui... Enfin, réjouis. Ma question, ça concerne comment est-ce qu'on peut et comment est-ce que c'est abordé, vu que vous connaissez peut-être sûrement beaucoup de choses, le consentement, puisqu'on ne peut pas, si on a envie de se servir des animaux pour nous aider, attendre forcément la spontanéité de la chose. Et donc, ce qui a ici été mentionné par rapport à l'effet miroir, par exemple, c'est-à-dire que ce sont des animaux qui sont en situation, entre guillemets, de précarité de la SPA ou du refuge, et qui alors, ce sont des animaux qui n'ont pas été dressés. Moi, ma question, ça concerne comment différencier un consentement d'un animal de service à celui d'un animal, et donc chien, chevaux, animal domestique, bien dressé. Et comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là?
Oui. Ben, c'est une question cruciale là que vous posez, effectivement, parce que quand Thierry Bédoussa disait il y a des animaux qui sont aidants, oui, mais jusqu'où? Enfin, c'est bien là le risque, c'est que à un moment la pathologie et le risque de leur retomber dessus aux animaux, et justement comment préserver un animal. Moi, je connais une amie psy qui travaillait avec son chien, avec un chien qui avait vraiment des qualités de thérapeute, visiblement, et qui a eu un cancer très, très jeune. Et elle s'est toujours demandé, évidemment, si elle ne l'avait pas entraîné, enfin, s'il ne l'avait pas suivi trop loin, parce qu'il semblait le faire aussi spontanément. Il allait travailler, entre guillemets, avec entrain, et il semblait très content d'être là. Donc, c'est presque encore plus radical que la question du consentement. Il y a des animaux qui semblent consentants, qui semblent même dans leur élément, et qui quand même encaissent. Et donc, je crois que là, il faut une finesse de regard extrême pour repérer tous les micro-signes de mal-être. Enfin, est-ce qu'un animal reste aussi vivant, est-ce qu'il reste aussi libre, est-ce qu'il, justement, il continue à improviser, à créer toujours d'une façon relativement intacte. Enfin, mais ça, c'est une vigilance à avoir en permanence. Il y a pas de règle, de nouveau. Mais je pense que oui, c'est une inquiétude à avoir en permanence du côté des humains, parce que c'est quand même nous qui les entraînons là-dedans. Donc, il y a une responsabilité qui est très grande. Et jusqu'où ils y trouvent leur compte, parce que c'est quand même ça. C'est problématique, je trouve.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être? D'autres réactions, d'autres suggestions?
C'est vrai que moi, je reviens ce qui vient d'être dit, c'est une vigilance au quotidien. Ça fait partie aussi d'engagement. Par exemple, nous, on a créé un réseau des gens qu'on a formés qui s'engagent sur une charte éthique et professionnelle de pratique et s'engagent effectivement à suivre les réglementations internationales hein, sur le temps d'activité des animaux. Mais c'est aussi cette compétence et cette formation à être attendue. J'ai parlé des signaux d'apaisement, ce genre d'éléments, de créer un cadre naturel pour les animaux, de voir si les animaux viennent spontanément vers les personnes quand ils viennent en séance, par exemple chez nous, à l'institut, et de voir effectivement comment ils ont à un certain moment envie de s'isoler, comment à d'autres moments ils ont vraiment envie de venir. Et donc, nous, on a pas mal d'animaux, on a cette chance-là, mais effectivement, ceux qui sont venus déjà à notre institut peuvent témoigner. On n'a pas de portail, on n'a rien, en fait. Les animaux peuvent partir quand ils veulent, ils restent là. On a un espace d'activité et d'accueil. Les animaux sont toujours à la porte en train de nous demander pour pouvoir rentrer. Ce que j'évoquais aussi avec les chevaux, c'est-à-dire que quand on fait les séances, ils ont 2 hectares de prairie, on a un manège qui est au milieu, en fait. On ouvre la barrière et, en fait, les chevaux arrivent. Alors on en a un, il s'appelle Bob, il a 28 ans, il a beaucoup travaillé. Et alors lui, il vient, mais il vient que pour le soin de départ. du coup tout le toilettage, parce qu'il aime beaucoup, parce que du coup on est beaucoup aussi sur le prendre soin en fait par rapport au toilettage. Et après on sait qu'il va partir parce que il a envie d'être en retraite, et puis après il a profité, il s'en va, et on sait qu'on va travailler avec les deux autres. Mais tout ça, ça s'anticipe effectivement avec ce qu'on appelle des situations laboratoires, des expérimentations qu'on fait sans être avec les personnes qui viennent participer aux séances. Et effectivement, c'est avoir toutes ces observations, un moment aussi de situation de fatigue, d'un problème de santé. Et puis, effectivement, ce qui est primordial, c'est cette notion de prendre soin auprès de nos animaux et d'être attentionné à eux et de voir vraiment comment ils viennent interagir et d'avoir cette spontanéité en fait d'interaction. Alors nous, on a des animaux, là on en a quelques-uns qui sont partis, mais à 13 ans, là on en a une qui s'appelle Gaïa, qui a 12 ans, elle a un problème de cœur, elle est avec nous en permanence à l'institut, elle voudrait travailler, mais on fait très attention à elle. Et quand on part aussi en séance à l'extérieur, elle est derrière le coffre et voudrait venir. On peut plus l'emmener, on fait attention. Parce que du coup, ça fait vraiment partie dans ce qu'on a créé de situations positives avec eux, et ils nous suivent. Quand vous arrivez sur notre parking, vous avez les Terre-Neuve qui arrivent, qui vous prennent par la manche et qui vous emmènent. Enfin, on est dans un univers, on a notre âne qui s'appelle Lily Rose, qui circule, qui se promène un petit peu partout, accompagnée de ses deux chèvres, dans un environnement qui est complètement naturel, et les gens viennent aussi dans cet environnement-là qui appartient aux animaux. Donc, c'est un point de vigilance, mais qui est essentiel, effectivement. On a eu aussi une chienne qui, à 2 ans et demi, a décidé de se mettre en retraite. Elle s'appelait Elsie, elle est partie à 13 ans et demi. Elle voulait pas travailler, on s'est dit, ça sert à rien, puisque du coup, ce qu'on cherche, c'est la spontanéité de la rencontre. Donc, et elle est à 8 ans, par contre, elle a eu un élan, je sais pas, d'un seul coup. Et du coup, elle voulait venir, donc on l'a ramenée. Et en fait, elle s'est complètement épanouie en milieu carcéral. Et là, elle allait voir tout le monde dans les cellules, etc. Et elle faisait... Et donc, du coup, moi, c'était... pour nous, les animaux, c'est les facilitateurs d'entrer en relation. Et là, du coup, elle s'épanouissait totalement. Et donc, du coup, elle a travaillé encore pendant 3 ans. Parce que, du coup, l'idée, nous, l'idée, c'est qu'ils se promènent avec nous dans ce qu'on a créé, surtout, par exemple, en milieu carcéral. Et donc, du coup, c'est un élément d'épanouissement. Plus que d'attendre que des animaux attendent dans une maison 8 heures par jour ou 10 heures par jour seuls, nous, ça fait quand même partie de notre organisation de vie, et nous aussi.
Alors, j'aurais une autre question. On s'est beaucoup intéressé au rapport entre les humains et les animaux domestiques. Alors, moi, il se trouve que depuis 2-3 ans, c'est une expérience assez nouvelle pour moi. Je pratique l'affût, où je vais voir des animaux sauvages, des oiseaux, enfin différents types d'animaux dans leur milieu naturel. Et j'observe aussi par effet miroir que des animaux adaptés à l'état sauvage dans leur milieu, le fait de les observer avec des jumelles de loin, il y a quelque chose qui me recentre aussi, enfin c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien. Et je me demandais si c'était aussi quelque chose qui a été abordé sur le plan de la santé mentale, ces échanges avec les animaux sauvages.
Oui, enfin il y a des recherches en cours, et effectivement je pense que c'est quelque chose vers quoi on pourrait tendre. De retrouver des animaux qui seraient dans une vraie liberté, dans une vraie relation à la nature, que de toute façon des animaux domestiques, des animaux de compagnie, à fortiori, ont perdu, et que malgré tout, la liberté qu'ont ces animaux domestiques et de compagnie, elle est quand même relative, parce que d'abord, ils sont conditionnés, et en plus, ils ne pourraient plus survivre dans un milieu naturel. Et puis, on a vu des zoos bombardés, les animaux restaient dans leur cage parce qu'ils n'étaient pas capables de faire autrement. Enfin, ils ne pouvaient plus vivre. Et donc, retrouver des animaux qui pleinement ont une vie où ils peuvent se passer de nous, ça me semblerait très sain. Bon, maintenant, il faut trouver comment on peut mettre ça en place, mais ce serait aussi quelque chose de plus multidimensionnel, puisqu'il y aurait des végétaux, il y aurait quelque chose de plus polyphonique, alors que avec un animal de compagnie, il y a quand même le risque d'être uniquement d'individu à individu. Enfin, ça a une force aussi, il y a une intimité là-dedans, mais le fait d'être dans la nature, il y a quand même quelque chose qui élargit, parce que du coup il y a toute une interconnexion qui entre en jeu, qui fait la vie aussi. En tout cas, moi, je trouve ça très intéressant, et je connais des gens qui cherchent dans cette direction-là.
En tout cas, moi, je me permets, je suis pas la spécialiste, donc c'est vrai que ça sera toujours plus intéressant de peut-être de vous entendre parler sur ça, mais par rapport à votre question, quand on s'est rencontré avec Nathalie, je lui parlais énormément d'un documentaire qui m'avait énormément perturbé. C'était sur les anciens animaux stars. Voilà. Qu'est-ce que ça devient un singe qui passe, un surpensé qui passe dans les films, notre plus belle famille, etc. Et en fait, il y avait un documentaire là-dessus où on les retrouvait, ces animaux sauvages, pour la plupart, dans une sorte de maison de soins, parce qu'ils étaient atteints de maladies mentales, et ça se traduisait en mimant les humains. En fait, c'est des animaux qui ont commencé à mimer les humains, tout simplement, et apparemment ça avait un grand impact sur leur développement. Du coup, moi, à titre personnel, je sais pas, et c'est pour ça que cette rencontre, j'y apprends beaucoup de choses. En tout cas, là, on parle beaucoup d'animaux domestiques, hein. Mais ouais, le contact de l'homme à l'animal, et notamment l'animal sauvage, j'ai l'impression que quelquefois, ce jeu de miroir, si l'animal devient humain, c'est plus bon pour lui, quoi.
Ah non, l'effet miroir, on n'est pas sur l'animal qui devient humain. On a des animaux, par exemple, quand je parlais des militaires qui allaient à la rencontre d'animaux, en fait, il y avait un accompagnement réciproque, en fait, qui se faisait. Ils n'ont pas les mêmes besoins, et l'idée, c'est pas qu'on soit dans un copiage, en fait. C'est que chacun puisse retrouver une place et une rassurance affective et émotionnelle, en fait, l'un envers l'autre. Donc, chacun, il s'y retrouve. Si on parle effectivement de pouvoir aller à la rencontre ou d'observer, tout simplement, pour pas interagir, en fait, avec les animaux sauvages. Effectivement, moi, je fais de la médiation par l'animal, avec des animaux, effectivement, qui font partie d'une histoire avec l'homme depuis tout le temps. Donc, c'est vrai que je ne travaille pas, par exemple, avec des oiseaux, etc., parce que je préfère les voir dans les arbres. Et effectivement, par contre, on va retrouver ces éléments qui font partie de ce qui nous permet de nous poser, parce que, en fait, on est envahi de parasitage. On est toujours en train de penser à 10 000 éléments primordiaux, et effectivement, alors ça peut être les animaux, mais ça peut être effectivement la nature, puisque du coup, la notion de nature, en fait, c'est de se poser, de revenir sur des situations qu'on appelle pleine conscience, en fait. Et là, en fait, en se focalisant sur quelque chose de simple et de naturel, qu'est l'observation de la vie avec des animaux qui sont dans cette spontanéité, dans un cadre où on pose, où on se recentre totalement, on crée une bulle, on se crée un élément de pleine conscience avec ce plaisir affectif, émotionnel et simple et gratuit, de pouvoir juste observer ces animaux-là, avoir du plaisir de les voir s'épanouir dans leur environnement naturel. Et donc ça, c'est là qu'on va retrouver des éléments qui sont essentiels dans la rencontre, dans ce qu'on pratique, mais je pense que c'est cet élément-là qui est primordial, c'est de pouvoir se poser et pouvoir centrer son attention en étant apaisé sur quelque chose qu'on observe et qui est positif et naturel, qui est la vie des animaux dans la nature. Là, j'étais sur l'île d'Ars il y a 2 jours, et du coup, il y avait des faisans qui circulaient partout. C'est assez incroyable. Et du coup, je m'asseyais, je les regardais, et en fait, ça me ressourçait, quoi. Donc du coup, effectivement, ces éléments-là sont pas à éluder complètement des bienfaits que peut avoir le partage de la vie avec les animaux, mais respectant l'environnement. Quand je suis allé bosser, on est parti à l'île de la Réunion travailler, donc c'était au mois d'août l'année dernière, et puis on est allé avant. En fait, du bord, hein, de Boucancano, là, etc., on pouvait observer les bananes qui faisaient des danses. Et du coup, moi, j'étais assis, je pouvais les regarder une heure, parce que ça me recentrait complètement sur des valeurs simples, en fait. Et les valeurs primordiales qui sont la vie, le plaisir simple, la spontanéité, les choses qui ne sont pas calculées, c'est vraiment observer la vie. Et donc, dans ces cas-là, effectivement, c'est le plaisir d'être dans la nature sans aucun enjeu aussi relationnel et social.
Pour ceux qui sont arrivés au fur et à mesure, il y avait aussi un petit enjeu, c'était de rendre cette rencontre sensible, et notamment en passant par plein de biais d'expression. Et c'est pour ça qu'on a invité l'illustratrice graphiste, superstar, Lucie Roulier. Voilà. En tout cas, à venir, elle a passé toute l'après-midi un petit peu auprès de nous. Ici, dans cette pièce, elle a eu à manger et à boire. Et du coup, Lucie, c'était un peu pour parler de ton lien que t'as avec les animaux aussi.
J'ai essayé de retranscrire certaines choses en dessin, certaines émotions, ou même j'ai essayé de vous regarder pendant que vous écoutiez aussi tout ça. Chez moi aussi, il y a des animaux, des chevaux, enfin voilà. Je suis aussi un peu touchée de près par la santé mentale, donc je vois très bien, quand on parlait tout à l'heure, qu'il y a certains animaux qui choisissent de même d'apporter un soutien parce qu'ils sont là, parce que ça se trouve comme ça et qu'il y a une rencontre qui se fait. Donc forcément, ça m'a beaucoup touchée. Je ne sais pas à quel point, s'ils étaient libres, s'ils n'avaient jamais été domestiqués, est-ce qu'ils auraient eu envie de s'approcher de nous comme ça je ne pense peut-être pas. Mais maintenant qu'ils sont ici depuis tellement longtemps, je pense qu'en fait, c'est inévitable qu'il y ait des interactions et des échanges émotionnels et presque d'empathie, quoi. Parce que depuis le temps, je pense que c'est quelque chose qui s'est aussi beaucoup développé chez eux via la domestication. Je pense que ça fait très très longtemps finalement que c'est pour eux en fait. Là, depuis tout à l'heure, on avait un peu l'impression que c'était peut-être récent cette manière de voir l'interaction entre l'homme et l'animal et l'empathie en fait qu'il pouvait y avoir. Mais en fait, c'est là depuis à mon avis très 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 longtemps. Et donc c'était très intéressant. Merci beaucoup. J'ai essayé de rendre ça un petit peu en image. J'espère que je pourrais vous montrer ça peut-être d'une certaine manière. Là, c'est un peu difficile, vous êtes un peu nombreux. Et j'ai fait des petits dessins, donc voilà. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis, je vous rends le micro. Merci.
Est-ce que je peux me permettre juste peut-être d'en expliquer un ou deux, peut-être d'avoir...
Donc voilà, il y a des petites choses un peu naïves. Il y a aussi... ça, c'est vous, les intervenants.
Et là, elle est super.
Donc ça, c'est le cheval avec l'être humain. Voilà, des petites interactions, on va dire, choisies de part et d'autre.
Là, c'est un
cheval et une personne. On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme, peu importe. Là, le public. Ah oui, ça, c'était des... Quand tout à l'heure, ça, on écoutait Zoonose, je sais plus, il y avait quelqu'un qui parlait de... Comme si c'était, il y avait une obligation de s'exprimer par le cri, par devoir sortir des choses de soi, alors que ce soit pour les animaux ou pour les êtres humains. Enfin, voilà, des choses un peu graphiques. Ça, ce sont les êtres humains inadaptés, finalement très adaptés. c'était par rapport à la santé mentale humaine. Est-ce que ce ne serait pas une forme de suradaptation finalement? Donc voilà, je me disais qu'on pouvait finalement peut-être être très bien comme ça, effectivement. Voilà, il y a tout un tas de choses, des petites choses plus graphiques, Si vous voulez, je peux vous montrer de plus près après, si vous voulez. Voilà.
On peut montrer à Sandrine.
Oui, pardon. devant la caméra. La caméra est ici. Des petites choses comme ça, mais c'est peut-être un petit peu difficile via écran interposé. Des choses comme ça. Alors, le public, vous qui ne l'avez pas vraiment vu. voilà. Un cheval et un être humain. voilà, il y a plein d'autres petits dessins. Je pourrais montrer ça dans d'autres circonstances. Merci.
Ah, c'est super. Bravo. Merci beaucoup, merci. Lucie. Eh ben, merci à nos invités. Merci au public. Merci à Lucie. Merci à nous deux. c'est vrai qu'on a appris plein de choses et puis on voit que c'est vif et toujours en questionnement en fait cette pratique du lien de soins entre l'humain et l'animal. Donc c'est voilà, je pense que il y a des dialogues vraiment fertiles sur cette question. Qu'est-ce que je peux dire d'autre que nous on continue ici le festival Zoon et que tout à l'heure à 20h, il y a une projection, la projection d'un film qui s'appelle Churchill, la ville des ours polaires, réalisé par Annabelle Amoros, et qui est allé filmer cette ville au nord du Canada, qui est appelée la capitale mondiale des ours polaires. De cette étiquette-là, on pourrait parler aussi, puisque cette sorte de proximité entre les ours polaires qui essayent de rentrer dans la ville et les touristes qui veulent les photographier, je crois que ça questionne un peu aussi la santé mentale. Donc voilà, un grand grand merci à vous, pour vos paroles et on pourrait prolonger plus tard. Merci au public.
Merci beaucoup. Merci.
Santé mentale, état du monde.